Bienvenidos a este informativo de Radio France. Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI. Et ce soir avec Vahid Shamsoddinza de la rédaction en persan.
Droud.
Pour les relations toujours aussi difficiles entre la France et l'Iran. Pour la rédaction en vietnamien, Chifuang Nguyen.
Xin chào.
Vous nous direz que l'économie vietnamienne est dans le viseur de Donald Trump. Et Zhu Qianglin de la rédaction chinoise.
Wanshanghao.
Vous êtes allé voir une exposition au musée Beaubourg à Paris, vous nous en parlez tout à l'heure. Avant cela, ce qui fait la une de l'actualité, ce sont les 10 ans de l'attentat de Charlie Hebdo, l'assassinat de plusieurs dessinateurs, puis les meurtres de policiers et de juifs dans une boutique cachère. S'en étaient suivis des manifestations monstres pour la liberté de la presse et la liberté tout court d'ailleurs. Il y a eu des commémorations cette semaine. Zhu Qiang, comment est-ce que la presse chinoise les a traités ?
Le Shanghai Observer a fait un article citant une phrase de Ries, Laurent Sourisseau. La satire possède une vertu qui nous a aidés à traverser ces années tragiques, l'optimisme. Si on a envie de rire, c'est qu'on a envie de vivre. C'est pas mal déjà. La vraie différence se trouve à Pékin. À Pékin, ce jeudi, le 9 janvier, Cangkao Xiaoxi s'est contenté de publier partiellement une dépêche de l'agence AP, publiée deux jours plus tôt sur le 10e anniversaire du tragique attentat de Paris. Alors, le papier d'AP a abordé deux points. Un, sur un tollé mondial pour la défense de la liberté d'expression. Et le deuxième porte sur le vif débat sur la limite de liberté d'expression. Cangkao Xiaoxi News et leur maison mère Xinhua News Agency, dans leur reprise partielle de la dépêche d'AP, ne parlant que du vif débat sur la limite de liberté d'expression. Ce choix montre bien leurs perspectives et leurs limites.
Et quant à la presse à Taipei, elle s'est également intéressée à cette commémoration.
Oui, lors de la commémoration à Paris mardi, l'agence centrale Central News Agency de Taipei a donné la parole à Matisse, un étudiant. Il dit qu'il est venu soutenir les valeurs défendues par Charlie Hebdo, donc la liberté d'expression. Il soutient les caricatures de Mohamed, de Dieu et du pape.
Oui, caricature de Mahomet, c'était à l'époque, Vahid. Quelle avait été la réaction justement de l'Iran ?
En 2015, après l'attentat, l'Iran avait adopté une position ambivalente. D'un côté, les autorités iraniennes avaient condamné la violence, affirmant qu'elle ne pouvait être justifiée. De l'autre, elles avaient dénoncé les caricatures du prophète Mahomet comme une provocation incompatible, selon elles, avec le respect des croyances religieuses.
Les publications de Charlie Hebdo ces dernières années ont à nouveau plusieurs fois suscité les critiques de Téhéran.
Bah oui, souvenons-nous dès 2006, Charlie Hebdo avait suscité une controverse mondiale en publiant des caricatures du prophète Mahomet. L'Iran, comme d'autres pays à majorité musulmane, avait vivement condamné ces dessins, les qualifiant de blasphématoires et d'insultants envers l'islam. Mais le numéro du 4 janvier 2023 a encore ravivé les tensions. Ce numéro qui présentait des caricatures de l'ayatollah Khamenei, guide suprême iranien, à l'occasion d'un concours dénonçant les restrictions en Iran après les manifestations liées à la mort de Mahsa Amini, a provoqué la colère de Téhéran. Le pays a convoqué l'ambassadeur français, fermé l'institut français à Téhéran et accusé Paris d'encourager une campagne anti-islamique.
Chifuang, vu du Vietnam maintenant.
Alors, au Vietnam, c'est vraiment... J'aimerais bien d'abord... Rappeler que la liberté de presse au Vietnam reste à un niveau extrêmement bas dans les classements internationaux depuis des années. Et selon le rapport des Reporters sans frontières en 2023, Hanoï s'est classé 178 sur 180 pays du monde et juste au-dessus de la Corée du Nord et de la Chine. Et l'administration vietnamienne est connue pour sa répression envers les dissidents et l'emprisonnement des blogueurs qui critiquent la corruption du régime ou abordent des sujets considérés comme sensibles ou tabous. La censure fait partie du quotidien des journalistes vietnamiens. Et pour revenir à votre question, écoutons notre interlocuteur qui va être anonyme. Et pendant des années, il a été responsable de la rubrique internationale d'un magazine caricaturiste humoristique.
Qu'est-ce qu'il vous a dit ?
Alors, il y a 10 ans, selon ses observations, malgré un rassemblement massif de millions de personnes et la présence de nombreux chefs d'État étrangers en soutien à Charlie Hebdo et à la liberté d'expression. Très peu de journaux officiels vietnamiens ont relaté cet événement. De nombreux journaux de renom n'ont même pas mentionné une seule ligne dessus. Ils comparent la censure de la presse au Vietnam à une boîte noire dont on ne peut constater que de ce qui est publié.
Plus largement, est-ce que l'humour noir de Charlie Hebdo est perçu comme radical au Vietnam et plus largement en Asie ?
Alors nous, notre rédaction, on a contacté plusieurs caricaturistes vietnamiens, bien qu'ils soient peu nombreux. Beaucoup ont refusé de répondre, mais ceux qui l'ont fait ont exprimé presque à l'unanimité leur soutien à la liberté de presse et leur solidarité avec Charlie Hebdo. Toutefois, ils n'approuvent pas l'humour noir de Charlie Hebdo ou du Canard enchaîné en France, le jugeant trop excessif ou irrespectueux, ce qui ne correspond ni à la culture vietnamienne ni à la culture asiatique en général. Il semble donc y avoir une forme d'autocensure culturelle. Nous avons également interrogé Madame Chen, une journaliste taïwanaise qui partage cette opinion. Donc, mais d'où vient cette autocensure d'origine culturelle ? Écoutons-la.
I think we have a different sense of humor in Asia or in Taiwan.
Et quelle est donc son opinion ?
Elle nous a expliqué qu'à Taïwan, bien que la presse soit bien plus libre et que l'on puisse se moquer de nombreux problèmes sociaux et politiques à travers différentes formes d'art créatif, mais la presse taïwanaise refuse souvent de publier des articles ou des dessins satiriques susceptibles d'offenser. Selon elle, à Taïwan, dès le plus jeune âge, les gens ne sont pas encouragés à exprimer des opinions critiques. Contrairement aux pays occidentaux où l'éducation en philosophie ou autres disciplines vise à développer une pensée critique, à Taïwan, cette pratique est moins courante.
Vous écoutez Accent du Monde sur Radio France Internationale.
20 heures à Paris,
20
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Cette semaine et aujourd'hui encore, les relations entre la France et l'Iran se sont encore détériorées. Vahid Shamsoudinzadeh de la rédaction en persan, qu'est-ce qui a déclenché cette nouvelle crise ?
Tout a commencé avec les propos d'Emmanuel Macron lors de la conférence des ambassadeurs à l'Élysée au but de la semaine. Le président français a qualifié l'Iran de principal défi stratégique et sécuritaire au Moyen-Orient. Il a également évoqué des sujets sensibles comme l'accélération du programme nucléaire iranien, l'implication de Téhéran dans la guerre en Ukraine aux côtés de la Russie ou encore son soutien à des groupes qu'il a qualifiés de dangereux dans la région. Ces déclarations n'ont pas tardé à susciter une vive réaction de Téhéran. Le porte-parole de la diplomatie iranienne a qualifié ces propos de sans fondement, contradictoires et spéculatifs, tout en accusant la France de suivre une politique non constructive envers la paix et la stabilité régionale.
La question du nucléaire iranien est au cœur de ces tensions. Pourquoi est-ce qu'elle est si sensible pour la France ?
Depuis que les États-Unis se sont retirés de l'accord sur le nucléaire iranien en 2018, l'Iran a progressivement cessé de respecter ses engagements. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Iran possède aujourd'hui un stock de l'uranium enrichi à 60%, ce qui est proche du niveau requis pour fabriquer une arme nucléaire, à savoir 90%. Bien que l'Iran ait toujours nié vouloir développer des armes atomiques, ce niveau d'enrichissement est inédit pour un État non doté d'armes nucléaires. Macron a souligné que l'accélération de ce programme place le monde tout près du point de rupture.
Vahid, les tensions ne se limitent pas à ce programme nucléaire. Quels sont les autres points de friction entre Paris et Téhéran ?
La détention de citoyens français en Iran est une autre source majeure de tensions entre les deux pays. Paris accuse Téhéran de pratiquer une diplomatie des otages. Depuis 2022, plusieurs ressortissants français, dont Cécile Kohler et Jacques Paris, sont détenus sous des accusations d'espionnage que leurs proches démentent catégoriquement. Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, a déclaré cette semaine que ces détentions étaient inadmissibles et a appelé les Français à ne pas se rendre en Iran tant que les détenus ne sont pas libérés. D'ailleurs, aujourd'hui même, la diplomatie française a convoqué l'ambassadeur d'Iran à Paris pour protester contre ces détentions.
Et autre chose, c'est assez insolite.
Il s'agit d'une campagne publicitaire lancée par la ville de Béziers au sud de la France, où le maire a utilisé une affiche associant le guide suprême iranien Ali Khamenei à Vladimir Poutine et Kim Jong-un sous le slogan « N'oubliez pas de trier les déchets ». Cette initiative, bien qu'annoncée comme humoristique, a été jugée insultante par Téhéran, qui a demandé au gouvernement français de prendre des mesures pour éviter de telles provocations. Sous la pression, le maire a décidé de retirer ses affiches, mais cet épisode illustre à quel point les relations franco-iraniennes sont actuellement tendues, même sur des sujets symboliques.
Mais alors, à quoi faut-il s'attendre dans les mois à venir?
Tout dépendra des initiatives diplomatiques des deux parties, notamment dans le contexte de l'arrivée à la Maison-Blanche d'un Donald Trump, qui était lors de son premier mandat l'architecte de la politique de pression maximale contre Téhéran. À court terme, les discussions prévues entre l'Iran, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne le 13 janvier en Suisse pourraient donner une indication sur la direction que prendra ce dossier. Mais il est clair que les tensions franco-iraniennes ne vont pas disparaître de sitôt.
Et bien évidemment, la rédaction persane de RFI, Vahid Chassoumdinzad, suit tout cela de très près. Cette question à présent, l'économie vietnamienne est-elle dans le viseur de l'administration Trump? La question se pose à 10 jours de l'investiture de Donald Trump à la présidence des États-Unis, à la Maison-Blanche. Alors, Chi Phuong Nguyen de la rédaction vietnamienne, le deuxième mandat du milliardaire suscite déjà des inquiétudes dans de nombreux pays, notamment au Vietnam.
En effet, Philippe, et cela en raison de ses idées sur l'augmentation des droits de douane sur les produits importés en vue de mieux protéger les États-Unis. Le Vietnam a pourtant beaucoup bénéficié de la guerre commerciale entre Washington et Pékin, car de nombreux fabricants ont déménagé leurs usines hors de Chine pour éviter l'impact des droits de douane imposés par Trump. Mais selon de nombreuses prévisions, Hanoï pourrait se trouver dans une position vulnérable et parmi les plus grands perdants avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche.
Oui.
Mais pour quelle raison? On discutera maintenant.
Oui, pourquoi le Vietnam pourrait-il être la prochaine cible de ces nouveaux tarifs douaniers décidés par la nouvelle administration Trump?
Alors, il faut d'abord préciser que ces dernières années, l'économie vietnamienne est devenue de plus en plus dépendante des États-Unis, qui représentent désormais près de 30% des exportations totales du Vietnam. Et l'année dernière, l'excédent commercial du Vietnam avec les États-Unis a grimpé à plus de 104 milliards de dollars, soit près de 3 fois son niveau de 2017, lorsque Trump avait pris ses fonctions. Mais Hanoï pourrait en partir, car Trump pourrait y avoir le signe d'un déséquilibre commercial et imposer des tarifs douaniers plus élevés pour réduire l'excédent. Bien que Donald Trump n'ait pas mentionné le Vietnam lors de sa récente campagne présidentielle, il a qualifié le pays en 2019 de presque le pire agresseur de tout en commerce. Et il a déclaré à Fox Business que le Vietnam profite de nous encore plus que la Chine. Je sais.
Alors, quelles sont les mesures que le futur gouvernement pourrait imposer au Vietnam?
Il est probable qu'elle imposera de forts droits de douane au Vietnam pour réduire l'excédent commercial entre les deux pays. Et ces mesures pourraient concerner les secteurs comme les textiles, les chaussures, les meubles en bois, les composants électroniques. Et le Vietnam fournit désormais entier des chaussures de sport, la moitié des lits en bois et des tables à manger, ainsi qu'un quart des cellules solaires importées par les États-Unis, selon The Wall Street Journal. Et en outre, l'administration Trump pourrait accuser le Vietnam de manipulation monétaire pour dévaluer le dong vietnamien, créant ainsi un avantage compétitif. Et ce sera un coup dur pour l'économie vietnamienne qui pourrait voir son taux de croissance reculer de 4 points.
Alors, rien n'est décidé pour l'instant, mais comment réagit déjà Hanoï?
Alors, les autorités vietnamiennes sont conscientes des risques et le président Long Khong a lancé un avertissement lors du sommet de coopération économique Asie-Pacifique au Pérou l'an dernier. Je cite « L'isolationnisme, les politiques protectionnistes et les guerres commerciales ne mènent qu'à la récession économique, au conflit et à la pauvreté. » Quant à l'excédent commercial avec Washington, Hanoï pourrait compenser en partie en augmentant ses importations en provenance des États-Unis, notamment des gaz naturels liquéfiés, de produits pharmaceutiques et d'avions. Toutefois, il reste difficile de savoir si le gouvernement vietnamien soutiendra de telles mesures.
Et les entreprises, comment elles se préparent à tout cela?
Alors, certaines entreprises envisagent d'exporter davantage de produits finis pour éviter de nouveaux tarifs imposés par les États-Unis. Hanoï devrait améliorer sa capacité à retracer l'origine des marchandises et des composants afin de dissiper les inquiétudes américaines et selon lesquelles le Vietnam en utilisait comme un site d'assemblage pour des produits fabriqués en Chine. Et sur ce point, je vous invite à écouter M. Francesco Chen Van Lien, directeur de l'entreprise Vina Cacao au Vietnam.
Quan điểm của tôi là hiện nay đó thì đó là một sự lo ngại, nhưng mà chúng ta cũng chưa biết chắc Hoa Kỳ sẽ tăng bao nhiêu thuế. Thứ hai đó là với thuế thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những mặt hàng.
Aidez-nous à comprendre.
Il a exprimé ses inquiétudes concernant les augmentations de tarifs douaniers américains qui pourraient cibler les matériaux de fabrication tels que l'acier, en particulier s'il n'existe des preuves que des produits chinois sont expédiés au Vietnam pour dissimuler leur origine. En exemple, si on importe une tonne d'acier chinois au Vietnam, puisqu'on exporte et puis on l'exporte aux États-Unis et cela est trop évident, mais si on utilise cet acier pour produire une bassine, une cuillère, un bone, il n'y a plus de traces chinoises. Il a également noté que le Vietnam dispose d'une loi sur l'origine exigeant que les produits contiennent un certain pourcentage de contenu national pour être considérés comme d'origine vietnamienne, donc la dissimulation d'origine n'est pas si facile que ça.
Chi Phuong Nguyen de la rédaction vietnamienne de Radio France Internationale. À Paris, il y a une exposition au Centre Pompidou qui attire particulièrement l'attention. Zhu Qianglang, vous êtes allé la visiter, hein, cette expo. Il s'agit d'un regard sur la liberté d'expression artistique.
Oui, quand la Chine parle de Wenminghujian, ça veut dire l'apprentissage mutuel entre les civilisations, concrètement, la Chine montre des événements culturels pour la promotion de son soft power et la gloire de son grand leader. Le côté réciprocité, le côté mutuel est trop souvent absent, peut-être oublié. Dans le cadre du Centre Georges Pompidou et West Bound Museum Project, en partenariat initié par le Centre Pompidou à Shanghai, l'exposition « Chine, une nouvelle génération d'artistes » au Centre Pompidou à Paris, organisée par le commissaire Paul Frech et ses collègues commissaires franco-chinois, montre le côté français de Wenminghujian, l'apprentissage mutuel entre les civilisations. Pour un art libre, un art qui a du souffle, un art qui partage une vision du monde, bref, un art pas soumis à la censure.
Et quelles sont les œuvres qui vous ont le plus impressionné?
On voit Safe House numéro 1, une œuvre de l'artiste Zhang Ding.
Que dit Zhang Ding?
Zhang Ding décompose et déconstruit un système de vidéosurveillance installé sur les places publiques en Chine et redéploie les composantes de ce système, telles que les caméras, les haut-parleurs, dans une installation ludique au Centre Pompidou. La musique du style marche, diffusée depuis les haut-parleurs de la place publique chinoise, est déformée en berceuse par l'artiste, une œuvre au parfum de surréalisme du XXIe siècle.
Venons-en maintenant au travail d'Alice Chen, qui aborde la question de la vidéosurveillance également.
Oui, son œuvre Diffusion en direct vidéosurveillance est une œuvre documentaire tirée de son Project Terrace. Elle partage en ligne les images de vidéosurveillance prises sur la terrasse du consulat général de France à Shanghai et inscrit l'action dans un système artistique sophistiqué.
Alors pour les organisateurs de cette expo, défendre la liberté d'expression artistique fait partie de la conception française de l'apprentissage mutuel entre les civilisations.
Tout à fait. La vie sous vidéosurveillance est bien un sujet mondial. Les artistes chinois parlent de la version chinoise de ce phénomène. Certes, c'est un des sujets sensibles dans cette exposition. Pour Paul Frech, directeur délégué du Centre Pompidou West Bound Museum Project, la liberté dans l'expression artistique permet une rencontre et un dialogue authentique entre les artistes et le public. D'un point de vue général, la réception par le public de l'exposition Chine, une nouvelle génération d'artistes, a été enthousiaste. D'autant plus que la création contemporaine chinoise n'avait pas été mise en lumière à Paris depuis de nombreuses années. Au cours du premier mois, plus de 30 000 visiteurs étaient venus à la découvrir. Je pense qu'on peut l'expliquer notamment par leur puissance formelle, mais également par les enjeux que soulèvent ces créations. Elles ont toutes trait aux nouvelles conditions sociales et individuelles créées par le développement de nouvelles technologies de l'information. Il s'agit d'un phénomène global, mais il prend en Chine des formes particulières liées à l'écosystème numérique local. C'est peut-être une surprise pour le public de constater à quel point les artistes de la nouvelle génération en Chine aborde ce
sujet. Et c'est à voir au musée du Centre Pompidou. C'était Accent du Monde sur Radio France Internationale.